Le journal était présenté par Marie-Alix Othé, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Pendant 15 jours, votre poste de télévision va vous transformer en journaliste. Voici votre carte. Inscrivez-y votre nom et commencez votre visite par le commencement.
Qu'est-ce qu'il y a dans une palme d'or? Il n'y a pas que de l'or. Il y a tout un festival de rumeurs. Il y a des débats passionnés d'un jury. Il y a un nouveau chapitre de l'histoire du Festival de Cannes.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Et ce matin, les coulisses de Cannes, c'est le rendez-vous cinéma annuel pour la presse. La grosse actu du mois de mai, le Festival de Cannes est l'événement le plus couvert par la presse après les Jeux Olympiques. Des stars, des people, un show quotidien, des marques, plus de marques encore cette année, nous dit-on. Et puis aussi le talent des acteurs, des réalisateurs, les films, la création. Avec cette année, un bémol, 76% des Français, selon un sondage, estiment que le Festival de Cannes ne fait pas rêver. Couvrir le Festival de Cannes, est-ce que c'est un rêve pour journalistes? Même si cela n'a pas l'air toujours très simple, les coulisses du Festival de Cannes, comment travaillent les journalistes? On en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. Marie Coleman, bonjour.
Bonjour.
Journaliste culture pour la matinale d'iTélé, Sabrina Champenois, bonjour.
Bonjour.
Rédactrice en chef de Next, le magazine de Libé, et vous étiez en charge des portraits pour Libération lors du Festival de Cannes. Frédéric Stussin, photographe, vous avez suivi le Festival de Cannes également pour Libération. Bonjour.
Bonjour.
Et vos photos à retrouver également sur votre compte Instagram Fred Stussin. Et je signale que vous exposez en ce moment vos photos du film Le Château de Sable au magasin Leica à Paris. Nos deux regards extérieurs aujourd'hui dans le secret des sources. Fabrice Lorvaux, avocat, spécialiste du droit des médias, et Thibaut Henton pour les images et le web. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy avec aux manettes cette semaine, Élise le clin d'œil de la semaine en fin d'émission de Yacine Bouzard, et nous rejoindrons au Canada notre correspondante Marie-Laure Josselin pour un énorme scandale, un journaliste vedette accusé de faux reportage. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans Secret des Sources.
Et maintenant, pour remettre la palme d'or, j'appelle les présidents du jury de ce 68e festival.
Messieurs les présidents du jury.
Jacques Audiard.
Jacques Audiard. Jordi Pan.
Pour recevoir un prix de la part des frères Cohen, c'est une chose assez exceptionnelle. Il y aurait peut-être les frères Dardenne aussi, mais... Merci infiniment. Je vous dois beaucoup de choses, monsieur. Vraiment beaucoup de choses. Merci, cher jury. Merci.
Mesdames et messieurs, le 68e Festival de Cannes se terminera ce soir après la projection. Je vous donne rendez-vous pour la 69e édition qui sera, souhaitons-le, érotique.
Voilà la remise de la Palme d'Or à Jacques Audiard et Lambert Wilson en maître de cérémonie qui souhaite une 69e édition érotique. C'est ce qu'on appelle un bon teasing. Un mot sur le palmarès, Marie Coleman, Cocorico bien sûr, mais Dipane de Jacques Audiard, c'est une belle Palme d'Or.
C'était pas ma préférée. Chacun notre truc.
Les cinq films français ont été pas très bien vus par la critique française. Contrairement à la sélection italienne.
Alors, on peut dire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens que... Si vous faites allusion à Youth de Paolo Sorrentino, je pense qu'il y a autant de gens qui ont détesté ce film que de gens qui l'ont adoré. Le Nanni Moretti, il y avait une sorte de consensus sur le fait que c'était un grand Nanni Moretti. Quant au film de Matteo Garrone, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas me hasarder à dire quoi que ce soit. Mais non, je pense que dans les films français, se sont plutôt pas mal tenus. Moi, j'ai bien aimé le Stéphane Brisé. J'aimais bien Il était hors compète, mais j'aimais bien La tête haute d'Emmanuel Berco, que je trouvais loin d'être ridicule. Voilà. Moi, personnellement, ce que j'ai vraiment aimé, moi, ce que j'aime de Cannes, c'est de voir, non pas les films français, que c'est pas ce qui m'intéresse le plus à Cannes. Moi, ce qui m'intéresse le plus à Cannes, c'est qu'on vient de me donner des nouvelles d'un monde que je ne connais pas et que j'ai peu de chance de connaître un jour parce que je suis pas née en Chine depuis 50 ans, parce que je n'habite pas en Amérique du Sud ou je sais pas quoi. Ça me donne des nouvelles du monde. Et à ce titre-là, j'ai préféré le film chinois de Jia Zhangke et le film taïwanais de Wu Xiaoxian.
Sabrina Champenois.
Alors d'abord, je précise que moi, je n'ai pas fait de critique. Donc,
des portraits.
Oui, mais néanmoins, je peux dire que la rédaction de Libération n'était pas très enthousiasmée par ce palmarès. En revanche, on avait un favori qui était Wu Xiaoxian, qui est l'auteur de The Assassin, voilà, qu'on a trouvé absolument fabuleux, qui a eu le prix
de la mise en scène. Ce qui est un peu une blague, quoi, parce que c'est comme ça, c'est bien Wu Xiaoxian, il sait faire de la mise en scène. On le sait un peu depuis un moment, quand même.
Ceci dit, je rejoins Marie dans le distinguo qu'elle faisait, c'est-à-dire on vient à Cannes, mais pas seulement pour le palmarès. Ce qui est important, c'est l'assiette qui est proposée, et elle était quand même extrêmement riche. Il y a notamment eu des choses à la quinzaine des réalisateurs qui ont enthousiasmé. Il y a certains films dans en compétition qui ont plu. Donc, au final, c'était plutôt pas mal, quoi.
Bon, une dernière question là-dessus. Mais le palmarès, c'est quand même le clou de la quinzaine, ou presque. Est-ce que la critique française ne s'est pas dit, tiens, avec les frères Cohen comme président du jury, on va voir un film qui ne serait pas un film français? On n'espérait pas autre chose des frères Cohen?
Peut-être un peu plus de fantaisie. Voilà,
oui, moi j'attendais
les
plus.
Les présidents américains récompensent les films français ces dernières années.
Bah, c'est peut-être pour éliminer la compétition, je ne sais pas. Ils se disent, bon, ben voilà, on va circonscrire les choses.
Enfin, le film américain qui était présent dans la compétition était tellement... Il y en avait deux, il y avait Carole, de Todd Haynes, qui était magnifique. Et puis il y avait le Gus Van Sant, qui n'avait vraiment rien à faire en compétition.
Retour sur les coulisses après ce point de vue sur la Palme d'Or. La délibération du jury, le dimanche après-midi, enfin le dimanche toute la journée jusqu'à 19h. Franchement, le secret n'est pas si bien gardé que cela. Il y a des fuites.
Il y a des choses qui filtrent, mais en revanche, c'est dans le désordre. C'est comme un quintet, c'est dans le désordre. Donc on sait qu'il y a tel et tel film qui vient, qui repart, qui est dans les cartes, pas dans les cartes, mais on ne sait pas dans quel ordre.
C'est voilà. Ça, on connaît les gagnants, les gagnants, mais on ne sait pas ce qui gagne. On sait qui le festival a rappelé, quelle équipe de films a été rappelée. Voilà, c'est les seules informations qu'on ait. Donc si on sait que par exemple l'équipe du film de Mai Wen a été rappelée, on sait qu'il va se passer quelque chose pour l'équipe du film de Mai Wen. Mais on n'en sait pas plus, on ne sait pas si c'est pris de la mise en scène, interprétation, etc.
Oui. Parce qu'on parle de conclave carrément pour le jury, d'une maison isolée, on ne sait pas où c'est, surveillé par la presse, il n'y a pas de téléphone portable. Pourtant on a l'impression que les comptes rendus des envoyés spéciaux de la critique française est très très précise quand même, avant
19h. Je pense que les attachés de presse... Ouais. Elles doivent savoir quand on rappelle leur
ça, mais oui, mais on ne sait que ça. On ne sait que...
Vraiment, il n'y a pas un coup de fil qui vous dit « C'est
vraiment,
bon, Vincent Lindon,
on ne sait
à la prix d'interprétation. »
Non, Vincent Lindon, moi, par exemple, je ne l'avais pas entendu. Je savais qu'on avait rappelé le brisé. Je ne savais pas. Moi, on m'avait donné Tim Ross comme prix d'interprétation pour le film de Michel Franco, Chronique.
Donc, c'est un vrai conclave.
Voilà, donc je l'ai découvert, hein, Vincent Lindon.
Alors, je ne sais pas si les frères Cohen ont eu une voix ou deux, tu sais, toi, au final.
Ils ont demandé chacun une voix.
Ah, d'accord, voilà.
C'est fini, les photographes, terminé. Vous en avez déjà pris des centaines, allez, reculez. Bon, c'est fini. Non, s'il vous plaît, je vous en prie, dégagez, mettez-vous sur les côtés. Et je vous en prie, pas de flash pendant la conférence. Vous pourrez vous rattraper en trois temps, après.
Bon, ben, je vais commencer par vous présenter toute l'équipe du film Taxi Driver, qui est ici aujourd'hui. Paul Schrader, le scénariste.
Paul Schrader, le scriptwriter.
Et maintenant, Monsieur Martin Scorsese, le directeur. Vous connaissez son œuvre aussi bien que moi. D'ailleurs, tout ce que je vous dis, c'est parce que vous êtes un tas de flemmards, que vous n'avez pas la force de lire vos cahiers de presse, mais tout ça y existe. Ensuite, je vous présente Jodie Foster. Jodie Foster qui...
Voilà, ce que l'on vient d'entendre a été enregistré lors de la conférence de presse de présentation de Taxi Driver à Cannes en 76. Taxi Driver, Palme d'Or, cette année-là. Alors, on l'entend, hein, la presse est souvent malmenée comme ça à Cannes. On donne des ordres aux photographes, on fait des remarques aux journalistes, à Frédéric Stussin.
Non, on donne pas des ordres, on donne des attachés de presse sont là pour nous aider. Moi, je travaille en équipe avec le journal, donc Sabrina,
Champagne. Vous voulez pas vous fâcher avec les attachés de presse?
Non, il y en a des pas bons, il y en a des très bons. Mais moi, je travaille avec le journal Libération, donc avec Sabrina Champenois, Joanna Lucène et les critiques. Donc moi, j'appelle les attachés de presse en disant, voilà, Sabrina va faire le portrait de Madame X, il me faut un rendez-vous photo. Alors, si Madame X n'est pas très connue, on peut avoir une demi-heure tranquillement. Si Madame X, c'est une personne très très connue, on va se retrouver avec les autres photographes qui sont du Monde, de Télérama, des Inrock, de Gradia. Par exemple, pour Nanni Moretti, on était dans un espace de 10 mètres carrés, on était tous là et on avait 20 minutes pour tout le monde. Et moi, je devais photographier John Turturro, Nanni Moretti seul, les deux ensemble. C'était identique pour les Inrock, c'était pareil pour Studio Ciné Live. Et donc, on travaille en 30 secondes pour avoir une image qui semble studio, qui semble... chic et classe. Et
c'est le même cas sur le tapis rouge, j'imagine.
Moi, j'y ai pas été du tout sur le tapis
uniquement
rouge.
Uniquement les
portraits. Ouais,
mais dans un espace regroupé.
Là, on a la chance, par contre, d'avoir les gens en face de nous. Contrairement au tapis rouge, ils ne nous regardent pas. C'est une chance, mais en même temps, quand on photographie Benicio del Toro, j'ai passé 10 secondes avec lui. Il m'a pas vraiment regardé, on va dire. Je ne suis pas devenu son ami.
En tout cas, Sabrina Champenois vous fait un beau compliment dans Libération de lundi dernier. Elle vous remercie pour votre patience souriante.
Ben oui, parce qu'on ne va pas non plus taper sur la figure. Ça reste Cannes, ça ne reste pas un terrain de guerre ou un grand-chose à perdre. Au pire, moi, je ratais la photo. Je me faisais engueuler par Sabrina. Ça serait réglé avec un coup de spritz, c'est une chanson, mais...
Non, je voulais préciser que...
Sabrina Champenois.
Que c'est... dans le cahier des charges de Libération pendant Cannes, on exige d'avoir... les rencontres se font systématiquement tête-à-tête. Ouais. C'est-à-dire pas de press junket, on n'est pas comme des poulets en batterie. Et donc, production photographique. Or, il est arrivé, à plusieurs reprises, que du fait qu'on exige de faire notre propre production photographique, le portrait tombe à l'eau. Voilà. Parce que, notamment, les actrices américaines, etc.
veulent vérifier, contrôler, c'est ça, la photo?
Oui, alors, elles veulent regarder, et même avant ça. C'est juste non. Je ne fais pas de photo.
Mais cette année, c'était différent de ce que j'ai entendu des autres photographes. C'était qu'on n'avait plus aucun accès aux stars. Colin Farrell, Rachel Weisz, tous ces gens-là étaient fermés pour les rendez-vous solo, quoi. Donc, on ne pouvait même pas espérer.
Et il faut préciser que on a affaire à des attachés de presse français, mais eux dépendent pour ce qui est des Américains, des fameux publicistes
qui eux
qu'il faut
à New York.
Éradiquer quoi. Juste ouais. Pour nous, oui. Il serait de nécessité publique de les éradiquer ces personnes.
C'est-à-dire
que par exemple un confrère, Laurent Rigoulet de Télérama m'a raconté qu'il se retrouve en face de Emma Stone en interview. Ils avaient dit pas de photo. Donc en interview, il lui dit « Mais pourquoi vous ne faites pas de photos ?» Et elle le regarde et lui dit « Mais bien sûr, je fais des photos. » Elle dit « Ah ben non, on n'a pas eu le droit, ça a été refusé. Pourquoi ?» Parce que la publiciste d'Emma Stone a décrété qu'il n'y aurait pas de photos pour la presse française, quoi. Rideau. Et donc, au bout d'un moment, c'est juste... c'est affligeant, quoi. Notre travail est laminé. Et puis en plus, le désir que vous pouvez avoir à rencontrer quelqu'un se heurte à la décision d'un pseudo machin chose qui se prend pour le roi du monde, quoi.
Ouais, ça,
moi, travaillant à la télé, les relations sont encore plus difficiles parce que autant Libération peut se vanter de dire mais nous, on a du contenu, donc on veut continuer à avoir des choses qui sont à la hauteur de nos ambitions et de nos exigences. Alors la chaîne d'info, c'est vraiment c'est la dernière roue du carrosse. On est les derniers servis. C'est vraiment des trucs à l'arrache. Et il y a encore pire, c'est que quand même, ils nous donnent des ordres.
De quel ordre?
Des ordres. Vous mentionnerez impérativement ceci, vous mettrez impérativement le titre comme ça, etc. Donc il faut se mettre en colère. Dire, moi, il faut que je remonte ces pelotes-là en disant non, non, qu'on se comprenne bien. Je fais un travail qui vous arrange, vous faites un travail qui m'arrange. Mais maintenant, moi, c'est ça. Moi, on m'impose des décors quand je vais tourner mes interviews. on m'impose un truc. C'est-à-dire qu'on m'impose deux petites chaises face à face avec l'affiche du film entre les deux, qui est en général laide comme pas deux.
Le partenaire ou...
Voilà, le partenaire. Donc il faut dire, non, est-ce que vous enlevez l'affiche, s'il vous plaît, c'est ma chronique.
Frédéric Sucin, c'est pareil pour vous, j'imagine, pour les photos, alors.
Bah, nous, on n'a pas l'affiche, mais par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, on se retrouve dans 10 mètres carrés ouais. Cette photographe. Et on a...
Et comment on fait la différence à cette photographe pour avoir la meilleure photo au même endroit?
On se rattrape aux branches, on fait ce qu'on veut, puis on a l'habitude de travailler vite. Après, c'est désagréable parce que, effectivement, quand je vois les photos qu'on a tous faites, il y a des différences, c'est pas toujours la même chose, mais peut-être que moi, je serais sorti, ça m'aurait fait plaisir de faire une photo dehors, notre collègue aussi, pareil. Et là, ce que je vois aussi cette année, c'est que, par exemple, Naomi Watts, la presse française n'a pas pu l'avoir. En fait, ça passe par les marques maintenant. Comme elle est égérie de je ne sais plus quel bijou, les journalistes, en fait, on s'en fiche un peu, parce que ça n'a aucun intérêt. Ouais. Un fanzine et un truc. Par contre, Bouchara, c'est classe. Donc, elle va être photographiée sans problème, dans des conditions intéressantes.
Oui, je pense que c'est important, ça, parce que vous parlez de journalisme, mais... De l'autre côté, ce qu'on attend, c'est de la com. Voilà. Ils n'attendent pas qu'on fasse du journalisme.
C'est ça le problème.
Donc nous, qui essayons de faire du journalisme...
Promo contre information.
Ah non, mais c'est dingue.
Voilà. Voilà. Et donc nous, on essaye de tenir le langage de l'information, parce que c'est notre métier. Journaliste, c'est transmettre une information, d'accord? C'est ça notre métier. Ouais. Rien de plus, rien de moins. Et nous, on nous impose, en échange, un vocabulaire de promo. Ce qui change la donne, parce que si on fait de la promo, là, il faut qu'on demande beaucoup d'argent.
Cannes 06 400 chef-lieu de canton des Alpes-Maritimes, arrondissement de Grasse. 62 847 habitants en comptant les femmes et les juifs. Haut lieu du tourisme balnéaire international, célèbre pour sa croisette bordée de palmiers et pleine de connes en perlousée traînant des chihuahuas, Cannes brille surtout pour son festival annuel du cinéma où les plus notables représentants de la servilité journalistique ordinaire côtoient les plus éminentes incompétences artistiques internationales. Sinistrement empingouiné, le Havane en rut ou la glande mammaire au vent, pressé, tassé, coincé entre deux haies de barrières métalliques, luisant comme des veaux récurés qu'on pousse à l'abattoir, tous ces humanoïdes chaleureusement surgelés se piétinent en meuglant sous les brames effrayants des hordes populaires.
Voilà, Pierre Desproges, pas très tendre, les chroniques de la haine ordinaire. Pierre Desproges en 86 sur France Inter. La Palme d'Or en 86,
moi j'ai googlé... C'est Michonne.
Ouais.
Ben, j'y étais.
Geoffrey.
C'est Roland Joffé, c'est ça. Joffé. Et c'était pas terrible.
Avec De Niro. Et c'était pas terrible.
Et c'était pas terrible. Le film est arrivé pas fini, pas mixé, pas dans son montage définitif et tout, non.
Comme avec Happy Chapong, non?
Cette fois-ci?
Non, la dernière fois pour la Palme.
Ouais, je crois
c'est possible. Mais ça arrive Wong Kar Wai, c'était pareil aussi, c'était à l'arrache. Ouais.
Marie Colmont, si on fait une mauvaise critique, est-ce qu'on prend un risque avec le réalisateur ou l'acteur? Est-ce qu'on prend le risque d'être sur liste noire? Comment vous avez travaillé, vous, pendant ces 15
années? Alors, moi, je m'en fiche complètement d'être sur la shitlist. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, s'ils ont envie de me mettre sur une shitlist, ils me mettent numéro 1, numéro 10, ça m'est complètement égal. Je crois qu'il faut pas faire ce métier de journaliste si on tient compte de ce que les gens pensent de vous. Parce que sinon, on est mort. Moi, pour le moment, moi, d'être plutôt cash comme ça, ça m'a plutôt servi. Voilà. Maintenant, il y a des gens que je ne verrai jamais et que j'interviewerai jamais, mais c'est pas très grave parce que moi, en même temps, j'ai pas envie de les rencontrer. Donc
des noms.
Non.
En fait, vous interviewez ceux que vous avez pas envie de dire trop de mal d'une personne que vous n'aimez pas.
Non, mais moi, je pars du principe qu'on a tellement plus peu de temps maintenant, en tout cas dans une chaîne d'info pour parler de culture, que avec mes pauvres 2 minutes 30, je vais pas perdre le temps que j'ai, qui est tellement petit, qui est tellement court, à parler de trucs qui m'intéressent pas. Je préfère consacrer le temps que j'ai à parler des trucs qui sont formidables et que les gens connaissent moins, que voilà, qui sont pas forcément à longueur de page dans Le Parisien ou etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce boulot. Voilà. Donc les fâcheries, je m'en fiche.
Sabrina Champenois, vous dites dans l'IB de lundi dernier que décrocher une interview, c'est un sport de combat, c'est Koh-Lanta, vous dites plus de 10 minutes en fait. Hein.
Oui. Et en fait, je trouve que ça s'est tendu. Enfin, ça fait mon 5e Cannes à peu près.
Oui.
Je trouve que les conditions se sont vraiment tendues. Je sais pas exactement à quoi ça tient. Peut-être un peu plus de volonté de contrôler l'image, cette envie de communication plutôt que de journalisme.
Ouais.
Et il y a eu des moments où c'était vraiment pénible, sachant que nous, on demande minimum 20 minutes. Alors c'est vrai que dans le cas de Cannes, où tout est très millimétré, etc., c'est beaucoup, c'est un peu, c'est du luxe, quoi. Mais on a besoin de ça. Et on s'est retrouvés parfois, bon, les frères Cohen, on les a eu 20 minutes, le tout premier jour, mais par exemple, Matthew McConaughey, à un moment donné, j'en étais à demander à l'attaché de presse si même 5 minutes, ça n'irait pas. 5 minutes, quoi. Ouais. Ça veut dire, vous dites bonjour, ça gaze, et puis c'est fini.
Et il faut faire un portrait.
Et là, ils ont dit non. Ils ont dit non. Je crois qu'il y avait 35 minutes pour toute la presse internationale, intergalactique, voilà, enfin ça. Voilà.
Donc c'est du mépris.
Marie Coleman.
Oui, moi je pense que c'est vraiment du mépris à notre égard. Parce que nous, on aime les films, mais pour de vrai. C'est-à-dire que nous, on aime le
pas
cinéma.
Pas
non, non, pas celui-là. Mais Matthew McConaughey, c'est un acteur éminemment respectable qui a fait des trucs déments. Et on a vraiment envie de parler à fond de cinéma avec lui, à fond de son boulot, de comment est-ce qu'il travaille, ce type-là. On a vraiment envie de raconter ça et donc de faire un vrai travail. Et là, on est réduite à une espèce de rangée à un banc de midinette en rute pour aller rencontrer McConaughey alors qu'on s'en fout.
Alors qu'on n'est même pas en rute.
Alors qu'on ne l'est pas du tout, quoi. Je veux dire, juste parler correctement, mais clairement, ça, c'est moins intéressant pour ces fameux publicistes, quoi.
Alors, il y a eu un autre cas.
Sabine Chaponneau, allez-y.
Oui, Libération a assez critiqué, mais de manière circonstanciée. Le film hongrois de Laszlo Nemes, le fils de Saul, et j'avais demandé à rencontrer Laszlo Nemes, le réalisateur, et l'interview a été annulée. Parce que il a très mal pris cette interview. Et moi, j'ai trouvé
cette critique.
Et j'ai vraiment regretté parce que je me disais que pour lui, c'était aussi l'occasion de nous répondre, de contre-attaquer, de dire ce que vous avez raconté, c'est complètement faux, etc. Donc vraiment, qu'une critique soit mauvaise n'exclut pas que nous, on puisse s'intéresser à la personne dont l'œuvre a été éreintée. Je trouve que c'est pas exactement la même chose. Voilà, donc c'est un regret.
Emma Yuen, donc Libération n'est pas très tendre hein, avec le film Mon Roi, mais elle accepte de vous rencontrer pour un portrait.
Elle a été exemplaire. Là, je dis vraiment merci, parce que la critique est parue le jour où on devait se rencontrer, et l'attaché de presse m'a averti que potentiellement, vu la critique, l'interview pouvait être annulée. Et j'ai dit, habitué à que ça se produise, je dis bon, on va voir. Et en fait, une heure plus tard, l'attaché de presse me rappelle, me dit Maïwenn est OK. Donc voilà, j'arrive et je dis à Maïwenn merci beaucoup, c'est élégant. Elle me dit non, c'est normal, non, Libé fait son boulot, moi je fais mon boulot, voilà. Et là, je trouve que c'est parfait. Elle nous laisse faire notre travail. On se rencontre, elle est parfaite, enfin, je veux dire, elle est généreuse. Là, c'est idéal.
La photo, Frédéric Stussin ?
Eh ben, elle s'est fait un peu plus rapidement que ton interview, parce que tout a pris du retard. Donc, je me suis retrouvé à faire la photo devant l'ascenseur, à bloquer les équipes qui devaient partir, notre photographe et notre télé. Voilà. Après, je pense qu'elle était très fatiguée à la photo, sa santé. Elle était en fin de journée, on montait ses stress pour les marches. Donc, pour moi, les conditions n'étaient pas complètement idéales. Mais elle a fait le job, effectivement. Elle m'a laissé le temps que je voulais. Les attaches presse ont bloqué les portes pour que je puisse travailler correctement. Donc j'ai eu 4 minutes, ce qui est royal à Cannes.
Mais le sentiment général du journaliste spécialiste cinéma, du critique cinéma, le sentiment général, c'est que c'est un journalisme, je ne parle pas de Libé, je ne parle pas de vous, Marie Coleman, mais c'est un journalisme plutôt bienveillant avec les stars. Les grandes interviews sur les télés aux heures de grandes écoutes.
Mais c'est qui les stars hein, c'est ça le problème. Moi, pour moi, Oussia Oussienne, c'est une immense star. Voilà.
Les stars connues.
10 fois plus que.
Qui font de l'écoute.
Que je sais pas qui, Eva Longoria. Voilà, c'est qui la star? C'est Oussia Oussienne ou c'est Eva Longoria? Pour moi, à Cannes, c'est Oussia Oussienne, la star. Et là, on mélange tout, quoi.
Ouais, mais Eva Longoria.
C'est ça le problème. Non, mais Eva Longoria est une femme sandwich, bien pratique, elle est très jolie, et elle monte et elle descend les marches, et tout le monde est vachement content, et il y a du placement produit, en veux-tu, en voilà. Moi, je trouve que c'est la confusion la plus totale, quoi. C'est la confusion la plus totale. Pour moi, à Cannes, une star, c'est un très grand metteur en scène, c'est un très grand acteur, une très grande actrice, avec qui, pour une fois, on va pouvoir parler de cinéma.
Sabrina Champenois.
Je sais pas, parce que je trouve que dans la tradition de Cannes, il y a quand même un côté paillette qui a toujours existé. Et pourquoi pas? Ce que je trouve dommage, c'est que, non pas que, enfin, si je trouve comme ça, un peu dommage quand même que Eva Longoria prenne tant d'importance, mais j'aimerais bien que Oussia Oussienne en prenne autant, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte d'équilibre.
Mais c'est une critique qu'on a pu lire aussi, il y a de plus en plus de mannequins, il y a de plus en plus de belles femmes et de moins en moins de cinéma.
Non mais ce qu'il y a c'est année. Que avant à la place d'Eva Longoria, avant à Cannes, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, c'était Elizabeth Taylor. Donc évidemment, ça aime un peu plus de voilà, donc c'était un peu plus classe quoi. Voilà, non. C'est ça le truc. Je m'attache pas à Eva Longoria, je suis comme toi, je l'aime bien, c'est pas le problème. Non, mais c'est juste, voilà, Eva Longoria, entre autres, tu dis.
Oui, mais il y avait aussi Kate Blanchett. Moi, Kate Blanchett, pour moi, ça équivaut quand même à Elizabeth Taylor, quoi, d'aujourd'hui, en 2015. Et je suis heureuse de la voir. Parce que, mais en même temps, c'est une grande actrice.
Bien sûr.
C'est ça la différence.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Alors, les relations journaliste-célébrité. Fabrice Lorvaux, avocat spécialiste du droit des médias à Cannes, journaliste et star de cinéma, ont un intérêt. Chacun qui oscille entre information, on l'a dit, et promotion pour les autres. Quelles sont les limites à ces relations ?
Et en dehors de ces grands événements médiatiques de Concorde, on trouve deux limites. Il y a une limite de forme qui est celle de ne pas espionner les célébrités et une limite de fond qui est celle de respecter sa vie privée. Alors d'abord, sur les limites de forme, malheureusement, on trouve dans la jurisprudence des cas où des journalistes ont été sanctionnés pour avoir procédé soit à des écoutes téléphoniques illégales, soit pour avoir ce qu'on appelle volé des photos. Alors pour les écoutes téléphoniques illégales, on a surtout des exemples en Angleterre. Hein, on se souviendra de News of the World, ce tabloïd qui a fermé en 2011, qui s'est sabordé suite à un scandale. Hein, et on notera au passage que Rupert Murdoch aurait versé plus de 2 millions de livres sterling de dédommagement à la famille de l'adolescente dont la boîte vocale avait été hackée. Très récemment, il y a 15 jours, un autre groupe, le journal Daily Mirror, lui a été condamné à payer 1,2 million de livres sterling au total à 8 personnalités pour là encore avoir espionné leur boîte vocale. Donc ça, effectivement, c'est une première limite. La deuxième, ce sont les photos, ce qu'on appelle les photos volées. On sait que on n'a pas le droit de prendre une photo d'une personnalité sans son consentement lorsqu'on est dans un endroit privé. Hein, et on avait eu récemment la jurisprudence Kate Middleton où effectivement le tribunal rappelait que effectivement elle était seins nus mais elle était à un endroit où pouvant légitimement supposer être à l'abri des regards indiscrets. Mais on a aussi toute une série de jurisprudences de condamnations de journaux pour avoir pris des photos volées, c'est-à-dire à l'insu des célébrités, notamment en vacances. Ou des photos de famille. On avait parlé ici du cas Philippot, où effectivement, il avait été pris au téléobjectif, alors qu'il était, il pouvait se croire, je cite, à l'abri des regards indiscrets, étant parti à l'étranger. Voilà. Ça, ce sont donc les premières limites de forme.
Alors, Fabrice, outre ces frontières de forme, quelle est la limite de fond ?
Alors, au fond, le journaliste doit à chaque fois respecter la vie privée. Alors, c'est un exercice qui est quand même extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que la vie privée, c'est une liberté fondamentale, elle est à géométrie variable, et en plus, elle est en concurrence avec une autre liberté, qui est la liberté d'information. Donc, c'est un concept qui n'est pas défini, mais on sait grosso modo que ça inclut la vie sentimentale, affective, sexuelle, le travail, etc. Mais elle est à géométrie variable, c'est-à-dire que le champ de cette protection n'est pas le même lorsque vous êtes une personne privée, même si généralement les personnes privées n'intéressent pas, enfin une personne qui n'est pas publique, j'entends, une personne qui n'est pas célèbre. Par contre, lorsque vous êtes un homme politique ou un acteur, eh bien là, effectivement, vous sollicitez quelque part le regard du public, donc la sphère de votre vie privée est plus limitée. Et enfin, il y a une autre liberté fondamentale qui est de même valeur et la loi ne fixe pas de hiérarchie, c'est le droit à l'information. Et donc, à chaque fois, le journaliste est censé faire ce qu'on appelle le test de la balance pour déterminer si les conditions sont réunies pour que le droit à l'information porte atteinte au respect de la vie privée. Et pour ça, il y a trois critères. Il faut d'abord un élément d'actualité. Cependant, l'actualité est appréciée différemment. Par exemple, il a été jugé que la grossesse réelle ou supposée d'une actrice, ce n'est pas un sujet d'actualité. Par contre, si c'est la famille royale, ça peut être une famille royale, ça peut être un sujet d'actualité. Ensuite, nous avons le critère de l'intérêt général. Alors, l'intérêt général, c'est ce qui est censé faire progresser les affaires humaines. Et on avait vu, par exemple, dans l'affaire toujours Kate Middleton, que le fait de la montrer dans cette situation intime et privée, hors de toute fonction royale, c'était absolument pas un sujet d'intérêt général. Dernier critère, on prend aussi en considération le comportement de la personne. Si la célébrité a mis en avant son couple, mis en avant ses enfants lorsque tout allait bien, eh bien, lorsque ça va mal, il est normal que la presse puisse là encore s'y intéresser. Donc en conclusion, on pourrait dire que le droit permet à l'individu célèbre de se protéger du regard collectif, mais pas en fait de contrôler ce regard collectif. Et en toute hypothèse, celui qui s'expose au regard collectif, ben, le fait à ses risques et périls.
Fabrice Lorvaux, merci. Treat Me Right, du chanteur et musicien lyonnais John Milk, extrait de l'album du même nom, qui vient de sortir.
Et on finit avec George Clooney qui s'est tapé le World Tour des tapis rouges pour la promo de son nouveau film Tomorrowland. Los Angeles, Londres, Shanghai, Tokyo, mais surtout il a enchaîné les interviews, assis, debout, les jambes croisées, en costume, en chemise, dehors, dedans. Et forcément c'est le même film, c'est les mêmes questions, ce sera donc les mêmes réponses.
I was born in 1961.
I was born in 61.
I grew up in the 60s.
I wanted to work with Brad.
I really wanted to work with Brad.
The sky is the limit.
The sky's the limit.
I am an optimist.
I'm an optimist.
I'm very optimistic.
I've always been very optimistic, by the way.
It's a very optimistic film. The most optimistic guy.
Voilà, George Clooney répète qu'il est né en 61, qu'il voulait travailler avec Brad, le réalisateur, et qu'il est optimiste. Extrait d'un reportage diffusé jeudi dernier dans le Petit Journal sur Canal+. Alors, est-ce que c'est plus simple, plus agréable d'interviewer des stars américaines plutôt que des stars françaises?
Ça dépend vraiment des cas.
Sabrina Champenois.
Moi, j'ai des très bons...
Là, on entend qu'ils sont quand même très pros.
Oui, mais par exemple, je me souviens d'avoir interviewé, alors ça, c'était pour une dernière de Libération, une dernière page de Libération, Angelina Jolie, que j'imaginais, que je présupposais régler comme du papier à musique, etc. Elle a été, mais... hyper intéressante, elle répondait à toutes les questions, à la fois très professionnelle et très intéressante. Donc non, il n'y a pas d'Américain ou Français. La difficulté par rapport aux Américains, c'est qu'il faut les avoir. Il faut arriver à les avoir pour alors 20 minutes dans le contexte de Cannes et 40 minutes dans le contexte d'un portrait de dernière page. Voilà.
Mais ils font du mieux pour leur promo, Marie Coleman, les Américains. Mais c'est pas en sens qu'on dit
qu'ils
sont plus
pros.
Non,
moi je trouve que ils font le job, c'est-à-dire qu'ils ont compris que ce que Signoret appelait le service après-vente, ça fait partie de leur boulot. C'est-à-dire que c'est pas seulement tourner un film, faire les photos, c'est aussi faire le job après, vendre le film, faire la promo, répondre aux questions. Donc en ça, c'est très agréable souvent de travailler avec eux. Maintenant, ils ont une langue de bois, mais qui est, mais parfois redoutable, quoi. Moi, je suis assez contente de ne pas avoir rencontré Matthew McConaughey parce que je pense que j'aurais eu 7 minutes de langue de bois avec un accent texan formidable que j'adore, mais moi, j'ai pas envie, moi, en 7 minutes, franchement, c'est vraiment très, très difficile pour moi de faire la différence entre une personne ou une autre. Voilà. Moi, j'ai rencontré Todd Haynes. C'est le seul qui m'a offert vraiment des réponses. Mais c'est atroce. Au bout de 7 minutes, il y a quelqu'un qui n'a rien à voir ni avec le journalisme, ni avec le cinéma. Une espèce de pitbull humain. Et qui dit, c'est fini! Voilà les conditions de travail, quoi. C'est pas possible. C'est du mépris absolu. Voilà.
Moi, je pense qu'il y a aussi des Français qui peuvent avoir la langue de bois. C'est pas C'est pas une spécificité américaine ou je ne sais quoi.
Ouais, mais là, Marie Coleman, vous parliez de l'attaché de presse qui met fin à l'interview, là, c'est ça, de manière un peu brutale.
Oui, c'est ça. Donc, moi, je pense que. Moi, je dis la langue de bois dans le cadre d'un truc très, 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 très court. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ressemble à ce que vous venez de diffuser. C'est-à-dire, je suis né en 61, c'est un film optimiste, je suis très heureux d'être en France, et voilà, quoi. Et j'adore Paris.
Ouais. Sabrina Champenois.
Moi, il y a des Français qui peuvent rivaliser avec ça, je trouve. Voilà.
Moi, j'ai trouvé.
J'ai trouvé que les Asiatiques étaient particulièrement. Classe,
ouais, moi aussi.
Distingué, aimable, poli, voilà. Mention.
Prenant le temps de répondre.
Palme d'or aux Asiatiques.
J'ai une bonne critique dans la presse française.
Ouais. Enfin, en interview, en tout cas, Naomi Kawase, Koreeda, Ousia Ossienne, des bijoux. Achipachong Verate Sakul, super.
Et moi, j'ai rencontré Shoki. Qui était une merveille aussi.
Qui
est drôle, et Jazanke, qui est un type exceptionnel, mais vraiment.
Thibaut Henton, notre œil sur la toile, et forcément le cinéma, et Cannes aussi, c'est sur les réseaux sociaux.
C'est triste. C'est triste que parce que tout d'un coup, je joue un personnage de tous les jours, je joue un précaire qui a du mal, qui n'a plus d'emploi, qui va retrouver du travail, et que j'y mets ma passion et que je vais en promotion pour parler de ces gens-là. C'est incroyable que tout d'un coup, je le dis franchement, je sois pris pour un sorte de mini-héros. Je suis rien du tout quand les acteurs de cinéma, les peintres ouvrent leur gueule, comme on dit. Je me dis pas, mais qu'est-ce que c'est bien, quel héros. Je dis, ah voilà, enfin quelqu'un qui fait pas la sieste.
Je suis.
Ouais, c'était Vincent Lindon, c'était pas Thibaut Henton.
Prix d'interprétation du dernier Festival de Cannes pour son rôle de salarié précaire dans La Loi du Marché de Stéphane Brisé, ou plus exactement Vincent Lindon, ventriloqué par Fred Weiss, qui connaît depuis quelques jours son moment de célébrité sur la toile. Je ne sais pas si vous avez vu ça, grâce à sa série Je suis. Face à sa webcam, Fred Weiss mime dans des petites pastilles d'une minute des interviews d'acteurs et d'actrices. C'est une forme de détournement, c'est parfaitement synchronisé, c'est drôle, une bonne manière de commencer la journée au cas où vous auriez YouTube à portée de main. La loi du marché donc, j'y reviens. Le film raconte l'histoire de Thierry, joué par Vincent Lindon, quinquagénaire chômeur depuis 15 mois. Thierry va retrouver par l'intermédiaire de Pôle emploi un poste d'agent de sécurité dans un supermarché, mais va bien vite se retrouver face à un dilemme moral, dit le synopsis, parce qu'on lui demande d'espionner ses collègues. Alors moi, je n'ai pas vu ce film, mais on me dit que le tour de force de Vincent Lindon dans ce film est de tenir tête aux autres acteurs, tous amateurs. Il arrive à jouer le réalisme aussi bien qu'un non-acteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Moi, je pense que c'est pas ça qu'on lui a demandé. Je pense que justement, on lui a demandé d'avoir le réalisme d'un acteur, qu'est-ce qu'il apporte à un acteur ? Il apporte de la fiction. Hein, puisque c'est son boulot, c'est de mentir. Donc son boulot, c'est de fabriquer de la fiction à un acteur. Et je pense que ce qui est très chouette de Vincent Lindon dans le film de Stéphane Brisé, c'est qu'il apporte de la fiction dans un truc qui est quasiment un documentaire, puisque la conseillère de Pôle Emploi est une conseillère de Pôle Emploi, la caissière est une caissière, et ainsi de suite.
Alors Vincent Lindon, chômage, Pôle Emploi, sécurité, surveillance, réalisme, de fait. La réalité colle tout à fait à ce tableau poisseux. Voyez plus tôt, il y a 10 jours, le conseil d'administration de Pôle emploi approuvait la généralisation des équipes de contrôle à partir du mois d'août. 200 personnes seront donc affectées à la surveillance des chômeurs pour s'assurer qu'ils cherchent bien du travail. Oui, parce qu'il paraît que la France serait assise sur d'immenses gisements de travail salarié, emplois non pourvus et emplois vacants. Comment voulez-vous que le chômage baisse puisque les chômeurs ne veulent pas travailler ? Voilà le discours en substance de messieurs Sarkozy, Naguère ou Rebsamen aujourd'hui relayant la communication du MEDEF qui avait lancé une campagne de communication en ce sens il y a un an, en mai 2014. Sauf que ces arguments repris de colonne en plateau reposent sur des erreurs d'interprétation et de chiffres. Il faudrait par exemple commencer par distinguer entre emploi non pourvu et emploi vacant, car ce n'est pas la même chose, mais ce serait trop technique. De bon matin, il se trouve qu'Adrien Clouet, dans un article du Monde Diplo de février dernier, chômage, le mythe des emplois vacants, fait cela parfaitement en soulignant notamment les conséquences financières qu'ont ces campagnes permanentes de dénigrement. Je suis désolé, on quitte un peu le glamour de Cannes, mais je vais citer un bout de cet article. En réalité, assimiler les bénéficiaires de droits sociaux à des paresseux ou à des fraudeurs en puissance conduit une partie significative d'entre eux à ne pas faire valoir leurs droits. Et de conclure qu'en France, le montant des droits non perçus excède largement la fraude sociale. Quant à la fraude à Pôle emploi, elle, ne constitue que 0,84% de l'ensemble de la fraude. La vraie fraude est ailleurs, on le sait bien. Alors je ne sais pas si la lecture de cet article a joué, mais le gouvernement qui avait fait adopter un amendement pour doter ces mêmes contrôleurs de Pôle emploi d'un accès à d'autres fichiers, accès aux factures téléphoniques ou aux comptes bancaires des allocataires notamment, le gouvernement donc a finalement retiré l'amendement qui avait été adopté de son projet de loi sur le dialogue social et l'emploi, actuellement en discussion au Parlement, sans doute parce qu'il devenait trop difficile de le distinguer de la loi sur le renseignement, dont le vote solennel au Sénat est prévu le 9 juin prochain.
Thibault Henton, merci. Le clin d'œil de l'émission Les Critiques de Cinéma, signé Yacine Bouzard.
C'est une idée du cinéma, disons, de pure mise en scène, peu importe l'histoire, peu importe le scénario. Écoutez bien. Les schlacks dans l'air, on a un combat là d'un coup qui est résumé à quelques clac-clac dans l'air, on ne voit rien. Parce que ce qui l'intéresse aussi à Ossène, c'est vraiment de filmer ce qui est invisible, de filmer l'air du sabre qui claque, de filmer la volute de fumée.
Bah c'est quoi ce truc? C'est hyper compliqué, il faut faire pause pour essayer de comprendre.
Dites-le en français. Notre langue est belle, utilisez-la.
Tout le film, effectivement, est sur la matérialité de l'air. C'est vraiment le sujet. Enfin, c'est-à-dire un émerveillement du spectateur qui se demande littéralement, trois ou quatre fois pendant le film, comment il a fait ce qu'il a fait.
What?
Dites-le en français. Notre langue est belle, utilisez-la.
Mais j'ai trouvé que j'ai eu du mal à me sentir concerné simplement par le film. Je trouve que ça devient un peu un exercice d'esthète un peu ésotérique. C'est-à-dire que, ouais, je sais pas, on est un peu...
C'est quelqu'un...
Dites-le en français. Notre langue est belle, utilisez-la.
Tout le film, effectivement, est sur la matérialité de l'air. C'est vraiment le sujet... Enfin, c'est pas...
Yacine Bouzard qui signe également un très beau documentaire sur l'Algérie à la recherche de son cinéma, un doc diffusé sur France Culture la semaine dernière, que l'on peut réécouter ou podcaster comme Le Secret des Sources sur franceculture.fr.
Le Secret des Sources.
Alors on change de sujet avec l'actu de la semaine à l'étranger, même si cela concerne une vedette aussi, une vedette du journalisme au Canada, accusée de faux reportages. Marie-Laure Josselin, notre correspondante au Canada, est en ligne avec nous. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour Frédéric.
Alors cette affaire François Bougingo provoque un énorme scandale chez vous.
Une bombe, c'est ainsi qu'a été qualifié le dossier de la journaliste Isabelle Haché qui a mené l'enquête sur François Bougingo, une enquête qui était quand même en une de l'un des gros quotidiens du Québec avec pour titre « Les mirages de François Bougingo ». Alors faut comprendre qu'en information internationale, il n'y a pas tant que ça de spécialistes ici et lui en fait partie, une chronique dans le journal, à la radio, à la télé, des conférences, bref, le journaliste de 41 ans est assez connu. Sauf que voilà, selon la journaliste Isabelle Haché, il aurait inventé des reportages et des rencontres depuis 20 ans. Par exemple, alors ces récits dans certains endroits en Libye, Somalie ou encore Bosnie, bidon, dit la journaliste. Des rencontres avec des personnalités, personne n'en a le souvenir, aucune trace de reportage. Alors, François Bougingo dit avoir voyagé dans 152 pays, couvert la majorité des grands conflits. C'est vrai qu'il a voyagé beaucoup, mais il aurait quand même pas mal enjolivé ses récits. Et c'est une chronique en février dernier qui a déclenché l'enquête. Il raconte avoir rencontré Seif al-Islam, c'est le fils de Kadhafi, en 2012, alors qu'il était prisonnier, il l'est toujours. La journaliste sursaute. Si c'est vrai, pourquoi n'a-t-il pas vendu ce reportage à l'époque? Pourquoi n'en est-il pas parlé avant? C'est pas possible pour elle. D'autant plus, elle était sur place en 2012 et il était impossible de rencontrer le fils Kadhafi. Aucun journaliste occidental n'a pu le faire. Alors elle a décidé de mener l'enquête pendant un mois, c'est ce qu'elle explique.
Alors Marie-Laure, Jocelyn, ça déborde sur les réseaux sociaux où l'affaire prend une sale tournure.
En à peine 3 jours sur Twitter, il y a eu 12 000 posts sur cette affaire. On en a parlé dans plus de 26 pays. Et les messages, on va dire, étaient assez virulents. Alors beaucoup se sont dit très déçus, ils l'écoutaient avec plaisir et certains l'ont insulté copieusement en lui demandant de se justifier. Ces gens-là se sentaient complètement trahis. Bon, il y en a quand même qui l'ont défendu. Il y a ceux qui ont dit « attendons sa version, il est déjà à terre, n'en rajoutons pas ». Et il y en a quand même qui ont crié au complot parce que la journaliste travaille pour un média concurrent. Bien sûr, il y a eu évidemment ceux qui se sont mis à faire des blagues dessus avec le mot-clé « bugging on fact ». Et Frédéric, on a vu aussi des messages quand même de journalistes qui disaient qu'ils avaient des suspicions depuis un bon moment sur les récits de M. Bugingo. Alors, on en a parlé et on en parle encore beaucoup.
Comment réagissent les patrons de presse et les journalistes, une fédération de journalistes, je crois, au Canada ?
On a beaucoup entendu, c'était un jour triste pour le journalisme au Québec. Même la journaliste qui a fait l'enquête, elle le dit. Alors, ce qu'on dit dans le milieu, c'est qu'on sort très amoché de cette histoire. Pendant 20 ans, la question, si tout cela est vrai, c'est clair que l'enquête est vraiment détaillée. Comment personne n'a rien vu, rien dit? Alors la confiance du public est ébranlée, la question de la vérification des faits est aussi mise en exergue. Tous les médias avec lesquels il collaborait ont déjà annoncé, après l'avoir rencontré, qu'il mettait un terme à tous ses contrats.
La défense de François Bugingo, il ne s'est pas encore exprimé?
On va dire qu'il s'est fait plutôt discret. D'abord, sur sa page Facebook, il s'est dit sidéré par l'attaque. Il a précisé que l'information qu'il partageait depuis 2 ans sur les ondes était toujours vérifiée, solide. Il y a eu un communiqué, il va défendre son intégrité, prouver son professionnalisme, et il va prendre le temps nécessaire pour le faire. Et pour l'instant, il se retire momentanément de l'espace public, quelqu'un que l'on voyait beaucoup. Faut savoir quand même que il a été interviewé avant la publication pendant presque 2 heures, donc il devait savoir que cette enquête allait sortir. Mais voilà, ça a été quand même une bombe, c'est le terme.
Marie-Laure Josselin, en duplex de Montréal, d'un scandale à l'autre cette semaine avec la FIFA. Thibault Henton, c'est l'image que vous avez retenue.
Donc vous savez que nous vivons actuellement des moments difficiles, je ne dirais pas sans précédent, parce qu'on a déjà vécu d'autres moments.
C'est dire s'il a le cuir épais, l'animal blatter, qu'on entendait à l'instant lors de son discours d'ouverture au congrès électif de la FIFA, c'était hier, vendredi. Ah, la FIFA, association à but non lucratif, je le rappelle, mais tout de même assise sur 1,5 milliard de dollars de réserve. Tout un roman, le roman du sport business dans son ensemble. Si l'on veut bien remonter à l'histoire de la marque Adidas et de son patron omnipotent dans les années 80, Horst Dassler, parfois décrit comme l'inventeur du sport professionnel, eh bien ça tombe bien, l'histoire de cet héritier est racontée en BD dans le prochain numéro de la revue dessinée, le numéro 8, qui sort le 11 juin prochain. Cette BD qui tombe à pic s'intitule « L'Empire du jeu », elle est signée François Tomaso et Nico B, et on y retrouve devinez qui ? Zeb Blatter, bien sûr, qui fut chargé par Dassler du développement du football en Afrique et en Amérique latine dès 1975. Né à 2 jours d'écart, les deux hommes prendront l'habitude de fêter leur anniversaire ensemble. La BD s'ouvre même avec lui, Blatter, prenant l'ascenseur pour rejoindre son bureau au sous-sol de la FIFA. Oui, au sous-sol, car bien que le siège de la FIFA offre une vue splendide sur Zurich, les bureaux où se décide l'avenir du football mondial sont tous au sous-sol, figurez-vous. Exact, enchaîne le personnage de Blatter dès la deuxième bulle. Les endroits où se prennent les décisions ne doivent pas être éclairés par une lumière directe.
Thibault Henton, merci à tous. L'émission se termine. Merci à nos invités. Marie Coleman, journaliste culture pour la matinale d'ITL. C'est un plaisir de vous recevoir, Marie. Sabrina Champenois également. On était très heureux de vous accueillir. Rédactrice en chef de Next, le magazine de Libé. Et vous étiez en charge des portraits pour Libération lors du Festival de Cannes. Oui, Sabrina?
Avec Johanna Luyssen, je tiens à préciser.
Avec Johanna Luyssen qui a eu un peu peur d'Isabelle Huppert. On en parlera peut-être dans une autre émission. Frédéric Stussin, photographe, et vous avez suivi le Festival de Cannes pour Libération.
Merci.
Vos photos à retrouver également sur votre compte Instagram, Fred Stussin, et vous exposez, je vous laisse dire où.
Au Le Castor, boulevard au marché. On travaille sur Les Châteaux de Sable, un film de Olivier Jaron avec Emma de Connes et Yannick Régnier.
En ce moment, magasin Leica.
Exactement.
Nos deux regards extérieurs de l'émission qui nous ont accompagnés et éclairés aujourd'hui. Fabrice Lorvaux, avocat, spécialiste du droit des médias, et Thibault Henton pour les images et le web dans les coulisses de l'émission. Les indispensables, Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr avec aux manettes aujourd'hui. Élise le clin d'œil de la semaine, Yacine Bouzard. Merci à notre correspondante au Canada, Marie-Laure Josselin, pour nous avoir raconté cette affaire Bugingo, et on va la suivre au secret des sources. Dans un instant, le journal de Marie-Alix Othé, suivi de Réplique, le choc Charlie, Alain Finkielkraut reçoit Mathieu Lindon. Dindon et Daniel Schneiderman. C'était Le Secret des Sources sur France Culture. À retrouver sur franceculture.fr. Le journal réplique. Bonne journée sur Culture.
Moi, pour moi, Oussia Oussienne, c'est une immense star. Voilà, c'est qui la star? C'est Oussia Oussienne ou c'est Eva Longoria? Ben, pour moi, à Cannes, c'est Oussia Oussienne, la star. Et là, on mélange tout, quoi.